France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 mai. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une nouvelle nuit de bombardement pour les habitants de Gaza. L'armée israélienne a mené la série de frappes la plus intense depuis une semaine, quelques heures après l'échec d'un troisième conseil de sécurité à l'ONU. Nous sommes en direct de Jérusalem, dès le début du journal, Agnès, après les autres titres.
48 heures pour ranger, nettoyer, trier, exposer, les derniers préparatifs avant la réouverture. Ouverture mercredi des terrasses, cinémas et grands magasins. En cette période de pandémie, les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir un métier qui ait du sens, avec des écoles d'infirmiers qui n'ont jamais autant été demandées. Les élections régionales, un scrutin à risque pour la Macronie, nous dira Karine Bécard. Et puis Lille ou le PSG pour remporter la Ligue 1, rien n'est encore joué.
Invité et rendez-vous de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Il a rendu public la semaine dernière une lettre qui nous a bouleversés. Il a annoncé se mettre en retrait de ses fonctions de président de la Ligue contre le cancer à cause de sa maladie, un cancer qui s'est aggravé récemment. Il a accepté d'en parler ce matin. Le médecin et généticien Axel Kahn sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa. On se retrouvera Léa à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le vice-président du Rassemblement national, député européen, tête de liste RN en Ile-de-France, j'ai nommé Jordan Bardella. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert et vous attend. 01 45 24 7000. Et puis à 7h15, le Zoom. Reportage ce matin dans une ferme d'un nouveau genre à l'occasion de la journée spéciale agriculture que vous propose France Inter.
France Inter. Une semaine peut-elle se résumer en quelques chiffres? 192 morts dans la bande de Gaza, dont 58 enfants et adolescents et 1200 blessés, 40 000 Palestiniens déplacés, 10 morts dont un enfant côté israélien et 282 blessés, plus de 3000 roquettes lancées vers Israël et des frappes israéliennes qui se sont poursuivies cette nuit. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem. Une nouvelle série de frappes donc sur des positions du Hamas à Gaza, les plus violentes depuis le début de ce conflit, de la reprise de ce conflit il y a une semaine.
Oui, des bombardements plus forts et plus intenses que d'habitude à partir d'1h38 ce matin, heure locale. Pendant une dizaine de minutes, des avions israéliens pilonnent Gaza. Un Gazaoui nous a transmis ses enregistrements de la nuit. En tout, plus de 70 frappes avec des boules de feu à chaque impact, puis une fumée épaisse qui monte. Ce matin, sur les photos de Gaza, on voit des immeubles effondrés et surtout des trous dans la chaussée, car l'armée israélienne lâche des bombes pénétrantes pour détruire les tunnels où le Hamas abrite ses hommes et son matériel. À Gaza, l'eau et le courant sont régulièrement coupés, les réseaux Internet sont à bout de souffle. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, 34 000 personnes se sont mises à l'abri dans une quarantaine d'écoles qu'elle administre. En Israël, nouvelles alertes à la roquette, mais moins puissantes et moins nombreuses, elles n'ont pas fait de blessés.
Et côté diplomatique, Frédéric, un nouvel échec au Conseil de sécurité de l'ONU.
Oui, les États-Unis bloquent toute résolution qui condamnerait les deux parties et donc l'allié israélien. L'Égypte sert d'intermédiaire entre le Hamas et Israël qui veut aller le plus loin possible dans ses objectifs. On veut des têtes, me dit un bon connaisseur de la situation. Comprenez des leaders du Hamas comme Yahya Sinwar, le chef politique dont la maison a été détruite hier, ou Mohamed Deif, le chef militaire, un disciple de l'Iranien Soleimani, tué il y a un an et demi par les États-Unis.
Merci Frédéric Mettezo. En direct de Jérusalem pour France Inter, le président égyptien est ce matin à Paris pour parler notamment de la situation au Proche-Orient avec Emmanuel Macron. Alors un cessez-le-feu dans les jours qui viennent est-il possible? Ce sera le thème de la chronique de Pierre Aski à 8h20.
Il est 7h04, Agnès, J-2 avant l'étape 2 du déconfinement.
Mercredi 19 mai, réouverture des terrasses, des musées, des cinémas, des théâtres et des magasins. Derrière les vitrines encore souvent opaques, tous s'affairent pour nettoyer, ranger, mettre en rayon. Dans les boutiques et les grands magasins, exit la collection hiver. Il faut installer la collection printemps-été, malgré la météo qui s'annonce maussade. Philippe Lefebvre a assisté au dernier préparatif au printemps à Paris. Reportage.
Après 3 mois de fermeture, c'est une effervescence joyeuse qui règne désormais dans les allées du magasin.
Il faut qu'on mette le maximum. Ok, moi voilà. Je mets toutes les réserves.
Certains, comme Romain Stigler, le directeur artistique, l'heure est au soulagement, car jusqu'à ces derniers jours, une incertitude planait.
D'avoir les produits en temps et travail en heure. On a beaucoup de produits qui ont dû être effectivement des fois bloqués, soit par rapport à la livraison, soit par rapport aussi à leur expédition.
Et dans les stands, la tenue en ce moment, c'est plutôt jean basket pour une ultime séance de nettoyage des étagères ou la mise en place de flacons de gel hydroalcoolique incontournable, explique Sandra qui vend de la maroquinerie.
Ah bah regardez, ici on a un petit peu partout, donc on pourra toucher, bien évidemment. D'abord on se nettoie les mains avec le gel et puis après on peut toucher.
Et mercredi, selon Nabil Kenouche, le directeur des ressources humaines, les agents de sécurité devraient avoir un rôle capital.
On va s'assurer que les jauges sont respectées en procédant au comptage aux portes. On va s'assurer qu'il n'y a pas d'attroupement dans les différents espaces de vente.
Et la jauge sera justement de 4792 clients en même temps, c'est-à-dire la moitié des clients que reçoit le magasin en temps normal. Pas encore de quoi compenser les pertes de chiffre d'affaires accumulées depuis mars 2020. Ce qui fait dire à certains experts que les grands magasins ne retrouveront leur chiffre d'affaires d'avant la crise qu'en 2024.
Reportage signé Philippe Lefebvre. À 48 heures de ce premier pas vers la liberté retrouvée, donc les signaux positifs sont réels. 4255 malades en réanimation, un taux d'incidence en baisse, 165 pour 100 000 habitants en moyenne. Et côté vaccination, plus de 20 millions de Français ont reçu au moins une première dose. Cette crise sanitaire a visiblement suscité de nouvelles vocations d'infirmières et d'infirmiers. La formation était déjà très demandée sur Parcoursup. C'est même la plus demandée depuis 3 ans. Près de 10% des inscrits sur Parcoursup cette année ont choisi un des instituts de formation aux soins infirmiers. Laurine Bingébria.
C'est en pleine crise sanitaire, à 17 ans, que Catalina a trouvé sa voie.
Mon père, il est tombé malade. Une infirmière est venue le soigner à domicile, ce qui m'a donné envie de le soigner aussi et puis soigner d'autres gens.
Un an plus tard, elle est en première année d'études dans un institut de formation aux soins infirmiers à Paris et se retrouve confrontée de plus près à la pandémie.
Ça fait un peu peur parce qu'on ne sait pas en fait ce qui va arriver. Et puis des fois, le Covid, il sacrifie un peu notre formation.
Certaines étudiantes sont ainsi appelées en renfort dans les hôpitaux. C'est le cas de Margot, en troisième année à l'Institut de Versailles. Mobilisée lors de la première vague dans un service de maladies infectieuses et tropicales.
Alors au début c'était pas facile, on savait pas trop à quoi s'attendre et après petit à petit on a vite pris le pli, on a eu ce sentiment d'être utile, ça m'a conforté dans l'idée que je me vois bien lever tous les matins pour aller vers ça.
Des vocations qui naissent ou qui sont renforcées en pleine épidémie, cela a surpris Jean-Marc Boussard, directeur des écoles d'infirmiers de Versailles et de Rambouillet.
Je pensais que ça serait plutôt le contraire. En même temps, on présentait un métier qui avait un sens, de prendre soin de l'autre. La nouvelle génération, en effet, est tournée vers les autres et cherche ce type de métier-là.
Dans le secteur de Saint-Quentin en Yvelines, près de 30% de candidatures en plus ont été enregistrées en 3 ans sur Parcoursup. Pour faire face à la forte demande, à la rentrée prochaine, Jean-Marc Boussard va créer 20 places supplémentaires dans ces deux écoles de Versailles et de Rambouillet.
Des préparatifs aussi du côté de Carré, dans le Finistère, où le Festival des Vieilles Charrues, l'un des plus attendus de l'été, se tiendra bien du 8 au 18 juillet. 10 soirées dans le strict respect des gestes sanitaires. Reportage de Mathilde Vinceneuf.
Au milieu des champs, le hangar des Vieilles Charrues est bien calme, avec ses 14 salariés au chômage partiel. Mais le directeur, Jérôme Tréorel, est débordé. Il a dû répondre à beaucoup de questions.
Comment on démarre? Par quoi on commence? Combien coûte un gradin?
Des gradins pour accueillir 5000 personnes assises par soir devant une seule scène, c'est une photo accrochée au mur qui a servi de déclic.
C'est grâce à cette photo aérienne où y a justement le site en pleine activité, on voit la grande scène, il y a 70 000 personnes devant, que on a trouvé justement comment réorganiser et où mettre cette scène.
On a retourné
la table et l'espace, on a tout changé.
L'idée, c'est de surprendre. Avec un budget divisé par 5, il y aura forcément des pertes. D'habitude, Michel Boulanger fournit des milliers de baguettes pour le festival, mais cette fois, il veut surtout réentendre la musique.
Forcément, on est carésiens, le festival, c'est un peu notre bébé aussi. Donc d'aller au festival, ça voudrait dire qu'on sort du tunnel.
Se dire aussi qu'on est là un peu pour animer le pays, quoi, en fait, puisqu'on est... Carré, c'est une petite ville au milieu de nulle part. Régine, 64 ans, est l'une des 7000 bénévoles et elle aura du mal à ne pas se lever.
Rester assis, il faudra vraiment, je ne sais pas, il faut peut-être prévoir des, comme pour les bébés, des petites sangles pour les attacher.
30 artistes français, Covid oblige, vont monter sur scène. La programmation sera dévoilée d'ici la fin de la semaine.
Mathilde Vinceneux et ses jours de déconfinement également en Grande-Bretagne avec la réouverture des salles de restaurants et des stades. Mais attention aux variants indiens, a mis en garde hier le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock.
Au total, nous avons enregistré plus de 1300 cas du variant indien.
Il est devenu majoritaire dans certaines régions du pays. Il est clairement beaucoup plus contagieux et il se répand très vite dans les régions où il y a des groupes, des clusters. C'est une course entre le programme de vaccination et le virus. Et ce nouveau variant a donné une longueur d'avance au virus. Mais nous sommes confiants dans la capacité du vaccin à nous protéger.
Et précisons que 36 millions de Britanniques ont reçu une première dose de vaccin. Et puis l'Algérie a annoncé hier soir la réouverture de ses frontières début juin.
Il est 7h10, les élections régionales, Agnès. Les listes doivent être déposées aujourd'hui avant midi.
Pour un premier tour de scrutin dans 5 semaines seulement, le 20 juin. Un scrutin qui pourrait bien laisser des traces dans la majorité après le psychodrame en PACA et l'arrivée de 5 ministres dans les Hauts-de-France, Karine Bécard.
La plupart des députés de la majorité ne cachent pas qu'ils sont écœurés par le début de cette campagne pour les régionales. Première critique presque systématique, c'est la question du programme. On a essayé de faire des listes, explique un député macroniste, mais comme pour les municipales, La République En Marche n'a réfléchi à aucun projet régional. Autre déception qui revient sans cesse comme une obsession, le problème de la ligne politique. On penche systématiquement à droite, observe une députée normande, qui vient d'ailleurs d'apprendre que des discussions ont déjà commencé pour qu'au second tour, dans sa région, le président sortant, l'UDI Hervé Morin, accepte de fusionner avec la liste soutenue par la majorité. Résultat, troisième contrariété, le tripatouillage électoral qui finit par apparaître pour ce jeune référent de la Somme, plus important qu'être un vrai rempart contre le Rassemblement national. Bref, vrai sentiment de malaise au sein du groupe de la REM à l'Assemblée. Résultats les plus remontés, envisage de pousser vers la sortie le patron du parti, Stanislas Guérini.
Karine Bécard. Et le suspense donc jusqu'au bout en Ligue 1 de foot. Le leader Lille n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul à domicile face à Saint-Etienne, 0-0, perdant ainsi l'occasion de décrocher le titre d'hier soir. D'autant que le PSG, c'est lui imposé largement face à Reims 4-0 et n'est plus qu'à un point. Tout se jouera donc le week-end prochain. Et même Monaco, qui a dominé Rennes 2-1, peut mathématiquement encore être champion, Cédric Guillou.
Un seul point entre le leader et son dauphin à une journée de la fin. Il n'y avait plus eu d'écart aussi faible avant le dernier match de la saison en Ligue 1 depuis 19 ans. Et c'est très bien pour le championnat français, estime Éric Rabessandratana, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain.
C'est plutôt passionnant et intéressant de voir ce championnat se jouer jusqu'au bout. Si ça se passe comme ça, c'est aussi à cause des Parisiens, parce qu'ils n'ont pas été capables de faire le travail avant.
Le PSG court toujours en effet après Lille, avant cette dernière journée. Lille, toujours devant, un point d'avance, qui peut toujours rêver d'un quatrième titre dans son histoire. Des Lillois, auteurs d'un match médiocre hier contre Saint-Etienne, qui vont quand même trembler jusqu'au bout. L'ancien défenseur du LOSC, Grégory Taforo.
On n'a pas retrouvé ce qui fait le côté spectaculaire de cette équipe depuis des mois. Malheureusement, on parlait de ce joker qu'on espérait être encore là avant le dernier match. Maintenant, la situation va être beaucoup plus claire puisqu'il faudra plus être dans le calcul et aller à Angers pour gagner.
Avant la dernière journée, les quatre premiers ne sont pas assurés de terminer à la place qu'ils occupent ce matin. Le suspense est vraiment total cette saison dans le haut tableau de Ligue 1.
Et pas de suspense pour Nîmes qui jouera en Ligue 2 la saison prochaine.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes avec aujourd'hui des insectes dans nos assiettes.